Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Liban et la Syrie sont de création récente, à peine un siècle. Depuis, ces deux pays voisins construisent leurs identités à la fois séparées et intimement mêlées. Dans un livre passionnant, fruit de plus de 30 années de recherche, Elisabeth Picard revisite l'histoire croisée de ces deux entités jumelles, dont l'auteur se demande comment elles ont pu suivre des trajectoires parallèles puis divergentes jusqu'au conflit. À suivre également la revue de presse de la semaine avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Sur la carte du Moyen-Orient, les territoires du Liban et de la Syrie semblent comme imbriqués. Entités jumelles, découpées par la même puissance mandataire, la France, leurs histoires suivent des trajectoires parallèles, puis divergentes. Elisabeth Picard, bonjour.
Bonjour.
Directrice de recherche émérite au CNRS, auteur de nombreux articles et ouvrages sur la vie politique dans le monde arabe, et notamment sur la Syrie et au Liban. Vous publiez « Liban, Syrie, intimes étrangers » aux éditions Sinbad Actes Sud. Alors, comment sont nées les institutions politiques et sociales dans ces deux pays et comment ces institutions ont-elles évolué pour chacun d'eux ?
Ce sont des institutions qui sont relativement récentes. Un siècle, c'est-à-dire la fin de l'Empire ottoman, la décision de faire passer les régions arabes de l'Empire ottoman sous des mandats de puissance européenne, et Liban et Syrie ont été sous mandat français. La France a incité ces deux pays à devenir des républiques, mais en fait, leurs institutions politiques ont pris des chemins très différents dès l'origine. Dès l'origine, le Liban a eu un système politique très spécifique, qui est assez rare dans le monde, qu'on appelle la démocratie constitutionnelle, et qui consiste à une entente entre les élites représentant chaque segment de la société. Au Liban, c'est chaque communauté confessionnelle, il y en a une quinzaine, pour s'entendre, pour se partager le pouvoir politique.
C'est un schéma très particulier qui n'existe nulle part ailleurs.
Qui existe sous différentes formes en Suisse, c'est une démocratie constitutionnelle, qui a existé en Hollande, en Autriche, et qui a été tenté en Afrique du Sud après l'apartheid. Mais c'est un système très difficile à maintenir, et surtout le principe du système confessionnel, de la démocratie de consensus. Lichpart, son inventeur, qui est un théoricien encore vivant, dit qu'il faut qu'elle évolue. Qu'on ne peut pas fixer un partage du pouvoir selon des quotas fixes ad vitam aeternam. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que c'est pourtant ça qui arrive dans le cas du Liban. Depuis une centaine d'années, le partage du pouvoir se fait selon des quotas qui ont peu bougé.
Et alors, côté syrien, comment ces institutions ont-elles été installées et évoluées ?
Alors, côté syrien, on a adopté une république plus semblable à la République française, représentation parlementaire, une république parlementaire. Mais très vite, après 10 ans d'indépendance, dans les années 50, il y a eu une série de coups militaires, puis la révolution nassérienne en Syrie même, qui a fait que la Syrie s'est tournée vers un régime politique qui ressemblait beaucoup plus aux démocraties socialistes, avec des guillemets, et s'est rangé à l'ombre de la tutelle soviétique. Et donc un régime qui est devenu de plus en plus militarisé, autoritaire, et qui en fait verrouillait le fonctionnement démocratique.
Alors pourquoi finalement la France n'a-t-elle pas mis en place une république dans chacun des deux pays semblable à la sienne ?
Le cas du Liban a semblé à la France extrêmement spécifique. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on parle aux Français, ils pensent tous, y compris nos dirigeants politiques, le Liban en termes de cas extrêmement spécial. L'idée qu'il faut protéger des minorités religieuses et en particulier des minorités chrétiennes au sein d'une région où la majorité démographique est très clairement musulmane. Derrière cette idée, cette idéologie et cette politique de défense des minorités, il y avait de la part de la République française l'idée d'avoir un partenaire politique et économique de l'autre côté de la Méditerranée qui soit spécifique. La France, fille aînée de l'Église, protégerait le Liban, dont la première communauté était chrétienne maronite. Et donc l'idée qu'il y aurait une alliance spéciale, qu'on donnerait au Liban une place plus importante que leur quota démographique aux chrétiens, pour leur assurer une prééminence au sein du régime politique, ce qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Ils ont l'exclusivité de la présidence de la République. Et dans ce cas, qu'on ferait toujours du Liban un allié très étroit de l'Occident et de la France en particulier.
En tout cas, cette idée de communautarisation de la société est un peu battue en brèche en ce moment avec l'émergence de mouvements dits citoyens.
Et depuis, on pourrait dire depuis la fin de la guerre civile qui a ravagé le Liban de 75 à 90, ça a été un moment de prise de conscience, en particulier de la jeune génération qui émergeait après la guerre et qui disait « nous ne sommes pas des miliciens, nous ne sommes pas des combattants, nous ne voulons pas de ces prisons confessionnelles et nous voulons un État moderne, nous voulons une ouverture ». Et depuis 1990, il y a eu véritablement au Liban une multiplication de mouvements sociaux. Il y en a qui, en 1998, ont obtenu que se tiennent des élections municipales, ce qui était une très grande victoire sur la classe politique qui verrouillait tout. Et ces dernières années, il y a des mouvements féministes, des mouvements culturels, des mouvements en faveur des émigrés et des mouvements contre la corruption de la classe politique. Il y a véritablement une prise de conscience de la dégénérescence de ce pays et du fait que les jeunes diplômés et compétents finissent par quitter tellement ils sont désespérés de leur pays.
Alors, y a-t-il des groupes ou des personnalités qui émergent dans l'affirmation de l'identité nationale de part et d'autre de la frontière entre Liban et Syrie ?
Oui, mais de façon très différente. Parce que les groupes qui émergent et qui parle d'identité libanaise nouvelle, d'identité libanaise syrienne. Dans les deux cas, ce sont des groupes qui se mobilisent contre leur propre régime politique. Dans le cas libanais, ce sont des groupes qui vraiment sont exaspérés par le verrouillage du système confessionnel et qui voudraient une transparence de la vie politique et qui voudraient établir une citoyenneté égalitaire des Libanais, quelle que soit leur confession. Et ces mouvements de la société civile que nous observons, ils sont extrêmement transconfessionnels. C'est presque l'inverse en Syrie. Contre un régime politique qui a verrouillé le pays et qui a instauré une véritable dictature militaire, en tenant depuis les années 60 un discours nationaliste arabe, nous sommes des musulmans nationalistes arabes, tous et toutes, et les autres n'ont qu'à se taire, se ranger sous notre autorité. Il y avait une véritable oppression. La société qui émerge, et on peut le dire à travers cette terrible guerre en Syrie aujourd'hui, c'est une société qui ne veut plus de cette dictature et de ce sultanisme du régime, et qui voudrait beaucoup plus d'autonomie locale, de respect des différences, de pouvoir donner aux groupes de la société civile des groupes de représentation ethnique comme les Kurdes ou religieuses comme les chrétiens. Et en quelque sorte, les citoyens libanais et les citoyens syriens font des démarches inverses qui les rapprochent vers plus de démocratie, c'est ça à quoi ils aspirent.
Donc des États qui divergent, mais des populations qui convergent. Est-ce cela le fait que vous disiez, que vous appeliez votre livre d'intimes étrangers ? Quand on est étranger, on n'est pas intime par définition.
J'en pensais à étranger en termes de citoyenneté, de passeport, etc. Mais en même temps, une certaine étrangeté, c'est vraiment l'autre, le Syrien pour les Libanais, et réciproquement. Mais intime, parce que leur histoire est tissée de mouvements familiaux, d'intérêts communs, etc. Et intime, parce que vraiment ce Moyen-Orient, ce Proche-Orient méditerranéen a été secoué, dévasté par le conflit israélo-arabe, par la guerre froide telle qu'elle s'est déroulée au Moyen-Orient, etc. Et a été véritablement empêcher d'émerger, de se développer, de laisser véritablement vivre les gens d'où cette émigration si importante. Et dans ce sens-là, oui, il y a une intimité d'une même demande, d'une aspiration, pas seulement à la paix, mais à plus de liberté dans les deux pays.
Est-ce qu'il y a aussi une intimité parce que des familles se retrouvent de part et d'autre de la frontière, par le fait d'ailleurs de celui qui a partagé donc le mandataire initial?
Oui, le partage a d'ailleurs été extrêmement contesté dans les années 20. Il a été difficilement accepté par certaines communautés qui se sont vues séparées de part et d'autre de la frontière. C'est notamment le cas de populations sunnites. Mais les familles, autant que le système syrien est resté ouvert jusqu'aux années 60, ont continué de circuler dans toute la région, de se voir, d'échanger, de s'intermarier, beaucoup. À partir des années 60, il y a eu véritablement un verrouillage de la frontière. C'était pas le mur de Berlin, mais c'était quand même le monde pro-américain, le monde pro-soviétique, et la Syrie a eu un régime très très dur. Et la guerre du Liban et l'intervention syrienne a fait entrer les Syriens dans le système politique libanais pendant presque 30 années, avec l'influence de Hafez el-Assad. Et au contraire, la crise syrienne à l'heure actuelle fait que les Libanais sont concernés par ce qui se passe en Syrie. Donc l'intimité, elle est toujours là dans un monde qui est maintenant tellement rapproché.
Merci Elisabeth Picard, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure de « Liban, Syrie, intimes étrangers » aux éditions Sindbad, Actes Sud.
Merci à vous.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Des généraux contre Netanyahou, Michel, c'est à la une de la presse israélienne.
Oui, visiblement, Eric, cela chauffe sur le front de la politique intérieure israélienne et les titres en disent long, la guerre des généraux ou encore la fronde des chefs d'état-major. Alors ils sont en tout 4 à vouloir prendre les choses en main et 2 tout particulièrement, le ministre sortant de la Défense, Moshe Yaalon, limogé il y a tout juste un mois et qui accuse Benjamin Netanyahou de tenter d'intimider la population israélienne et il annonce par la même occasion qu'il a l'intention de se présenter lors de la prochaine consultation sans préciser d'ailleurs quel poste il brigue. Et Ehud Barak, qui appelle un rassemblement pour renverser le gouvernement, l'ancien Premier ministre n'hésite pas à utiliser le terme de fascisme pour qualifier les phénomènes que l'on perçoit au sein de la société israélienne. Israel Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, cite à la une la réaction du Premier ministre. Les deux généraux disent exactement le contraire de ce qu'ils proclamaient quand ils étaient en fonction. Inquiétant, estime un éditorialiste. Un commentateur affirme qu'il y a une odeur de putsch dans l'air. Mais écoutez plutôt le résultat d'un mini-sondage express de Maariv. Qui est préférable comme Premier ministre? 40% pour Netanyahou et 37% seulement pour Yaalon.
Néanmoins, une affaire à suivre. Alexandre, la visite du vice-prince héritier saoudien aux États-Unis intéresse vos journaux?
Oui, la visite qui, selon les journaux, tire son importance du fait que le prince Mohammed bin Salman est l'homme fort d'Arabie. Le fils du roi Salman est aussi président de la cour royale et conseiller du monarque saoudien et surtout ministre de la Défense. Alors un poste crucial en cette période où l'Arabie saoudite s'est lancée dans une guerre ouverte au Yémen à la tête d'une coalition anti-Houthi ainsi que contre l'État islamique dans le cadre d'une autre coalition, cette fois menée par les États-Unis. C'est le prince Salman qui a fait de l'Arabie saoudite le premier importateur d'armes au monde en 2015, sans parler de l'armement payé à des alliés comme l'Égypte, qui lui est quatrième importateur d'armes en 2015, avec notamment les Rafales et les Mistral. Une visite qui intervient à un moment où les relations avec les États-Unis sont tendu à cause du rapprochement de Washington avec Téhéran, soulignent les commentateurs.
Et puis Alexandre, la presse arabe se penche également sur la situation des musulmans aux États-Unis, justement, après la tuerie d'Orlando.
Oui, et le titre du journal Panarab al-Arabi al-Jadid, c'est « En Amérique, le crime d'un musulman est un péché collectif ». Les musulmans ont beau condamner des crimes comme la tuerie d'Orlando, mais ce n'est jamais assez aux yeux de l'opinion et des médias qui accusent pratiquement tous les musulmans de collusion avec le criminel, que ce soit par action ou par inaction. Quand un criminel blanc chrétien commet une tuerie de masse aux États-Unis, c'est un déséquilibré mental, mais quand c'est un musulman, c'est un terroriste islamiste, écrit le journal.
Michel Paul, un nouveau moyen pour combattre les tunnels en provenance de Gaza.
C'est un scoop de Yediot Aharonot avec ce titre en manchette, le mur de Gaza. Alors selon le journal, Israël, sous la direction de son nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a décidé de construire un mur de séparation autour de la bande de Gaza, mais cette barrière serait principalement souterraine et son but serait donc de juguler la menace présentée par les tunnels offensifs construits à partir du territoire palestinien. Coût de l'opération, toujours selon le quotidien, près d'un demi-milliard d'euros. Et puis Eric, toute la presse en Israël cite la petite phrase d'un haut responsable sécuritaire israélien. En cas de nouvelle confrontation à Gaza, le Hamas disparaîtra.
Et puis la mort tragique de la députée britannique Joy Cox jeudi fait également la une, Michel.
En effet, les journaux suivent de très près la campagne pour ou contre le Brexit en Grande-Bretagne. Et bien sûr, l'assassinat de la parlementaire travailliste Joy Cox. Elle était proche du parti colombe israélien Meretz, soulignent les journaux. Un commentateur parle même d'intifada à la britannique. Et les analystes multiplient les commentaires sur les conséquences d'un vote en faveur du Brexit, notamment sur l'économie israélienne.
Alexandre, l'économie des pays du Golfe serait dans une mauvaise passe, selon plusieurs analystes.
Oui, des économies frappées de plein fouet par la baisse durable des prix du pétrole, mais aussi par le ralentissement de l'économie mondiale. À titre d'exemple, le déficit budgétaire saoudien pour 2016 a atteint le chiffre record de 12%. Selon les journaux arabes, les investissements internationaux des pays du Golfe sont de l'ordre de 3 trillions de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Des investissements qui ont enregistré des pertes à cause de la baisse généralisée des indices boursiers. À cela s'ajoute le Brexit, le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe et les risques de dévaluation de la livre sterling et du ralentissement économique. Or, Londres est une des places où les Arabes sont omniprésents.
Une bonne nouvelle, néanmoins, Alexandre, les chevaux arabes se portent bien.
Oui, les chevaux arabes du Golfe qui, selon Al-Sharq Al-Awsat, ont remporté plusieurs trophées aux célèbres courses royales d'Ascot en Angleterre. Des courses auxquelles ont assisté, selon le journal, 300 000 spectateurs, la reine d'Angleterre ainsi que le vice-président des Émirats et gouverneur de Dubaï. Et pour cause, les étalons du Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum et de son épouse ont remporté les principaux trophées. Les journaux arabes ne disent pas à combien ils étaient donnés par les bookmakers.
Michel, Israël part en guerre contre le BDS. C'est quoi d'ailleurs le BDS ?
Boycott, désinvestissement et sanctions. Le mouvement BDS qui appelle au boycottage d'Israël est dans le collimateur des autorités israéliennes. À en croire à Haaretz, une unité spéciale aurait été créée pour tenter d'entacher les leaders de ce mouvement, et notamment les Israéliens qui sont parmi eux. Et cela, selon Haaretz, en lieu et place d'une politique moins décriée par la communauté internationale.
Allez, pour conclure, Michel, votre photo du jour.
Eh bien, c'est une fois de plus la photo d'Arnaud Mimran, soupçonné d'être impliqué dans la fraude du siècle. Mais cette fois, la presse israélienne le montre aux côtés de l'homme qui l'a mis en relation avec Benjamin Netanyahou. Et il s'agit du député Meir Raviv.
Merci Michel, merci Alexandre. Rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook pour écouter cette émission réalisée par François Porcheron. À samedi prochain. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal. En sol majeur.